dans l'évangile selon Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de Jésus, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Éternel, ta parole est chemin, ta parole est lumière, ta parole est source de vérité. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, c'est l'année liturgique qui s'achève, juste avant d'entrer donc dans la période de l'Avent et des réjouissances de Noël, la lecture dominicale de l'Évangile, vous l'avez entendu, nous plonge dans ce récit, ce moment si difficile, le récit de la mort de Jésus. Nous sommes donc aujourd'hui au pied de la croix, dans le lieu et le moment probablement le plus déboussolant qui soit, tant pour les témoins directs de ce qui s'est passé que pour nous, aujourd'hui témoins de l'événement à distance. Eh bien, bonne fin d'année liturgique à tous. Voilà, nous sommes devant la croix. Alors, faisons quand même avec l'Église, nous aussi, cet effort ce matin de nous arrêter au Golgotha et devant cette croix dressée devant nous, essayons de trouver du sens dans ce scandale, dans ce gâchis, dans cette fin annoncée. Voilà donc le bout du parcours terrestre de Jésus au moment où tout va basculer. Et là, pour tous les témoins qui sont là, et bien sûr pour nous aussi 2000 ans plus tard, se posent alors 1000 questions profondes et importantes. Du genre, échec complet de sa mission ou victoire éclatante? Dans le livre de Samuel, dont on a lu quelques versets tout à l'heure, vous l'avez entendu, l'Éternel disait « C'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, c'est toi qui seras chef sur Israël. » Mais quel est ce berger qui devait conduire son troupeau en de verts pâturages? On voit plutôt ici comme un agneau sacrifié. Alors quelle est la puissance de ce roi qui devait libérer son peuple? Il est cloué là à une croix comme un bandit et méprisé de tous, apparemment totalement impuissant à faire quoi que ce soit. Alors vous savez peut-être que dans nos églises, plus particulièrement dans l'Église catholique, on appelle ce dimanche de l'année la fête du Christ roi. Mais quel est-il ce roi? Le chef d'une Église triomphante? Une autorité qui s'impose à toute la société? Sur quel royaume règne-t-il? Et où est son trône? À Rome, à Constantinople, à Jérusalem, à Genève, dans le ciel? Au sommet de quoi est-il? Quel est réellement son pouvoir exactement? Toutes ces questions se posent là, au Golgotha, au pied de la croix. Et oui, c'est au pied de la croix qu'apparaît peut-être de manière la plus éclatante cette différence, cette distance, ce décalage complet entre la vision des hommes et la révélation. On l'entend dans l'histoire, hein. « Sauve-toi toi-même », ne cesse de répéter les témoins de la crucifixion. Les chefs du peuple ne comprennent pas qu'un homme qui en a sauvé tant d'autres ne puisse échapper lui-même à la mort. Pour eux, c'est impossible à comprendre. Même les soldats romains, qui ne peuvent que constater l'échec de cet agitateur, ironisent et se moquent en inscrivant sur la pancarte, là, sur le titulus, au-dessus de la croix, « Cet homme est le roi des Juifs ». Le premier malfaiteur, donc Jésus est en croix, il y a un malfaiteur de chaque côté de lui, et le premier, lui, dans sa révolte face à la mort qui s'approche, lui crie lui aussi « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Alors on le voit, c'est la confusion, c'est l'incompréhension totale, la provocation même. Et cette confusion est là depuis toujours autour de Jésus. On a toujours voulu le voir comme un roi qui prendrait le contrôle d'Israël, qui prendrait tout le pouvoir, un peu comme David, hein, sur tout le pays d'Israël. Après, ça s'est divisé. Un roi qui allait bouter l'ennemi, l'envahisseur romain, hors de la terre d'Israël. Tout le monde a toujours vu ça en Jésus et voulait ça. Et c'est presque d'ailleurs la même confusion, vous savez, que vous avez dans les Monty Python, là, dans la vie de Brian, tout au long de l'histoire de Jésus. Il y a ce Brian qui est une espèce de confusion. On imagine des tas de choses de ce Brian et il essaye désespérément de dire « mais non, c'est pas ça ». La crucifixion se finit mieux dans la vie de Brian. Je vous conseille de le retrouver, ce film, d'ailleurs, il est excellent. Alors plus tard, on a interprété cette mort de Jésus comme un sacrifice qui était dû au Dieu d'Israël pour le satisfaire, pour que les hommes et le monde soient réconciliés avec Dieu. Il y avait un sacrifice nécessaire, et ça a été cet homme. Il fallait donc offrir ce sacrifice à ce Dieu qu'il exigeait. Mais comment aimer et vouloir suivre un Dieu pareil, ce Dieu d'Israël, un Dieu si cruel, un Dieu si, j'allais dire inhumain, mais en fait non, un Dieu si humain, hein, qui exigerait comme ça, pour être satisfait, un sacrifice. Si on adhère à un tel Dieu, nous le réduisons à des désirs et à des caprices très humains. Il faut vraiment que j'ai un sacrifice pour être réconcilié avec tout le monde. Vous voyez la taille de Dieu qu'on peut adorer dans ce cas-là. Nous réduisons Dieu à une idole. Qui a besoin de sacrifice pour résoudre ses problèmes, et le sacrifice d'un innocent en particulier, surtout quand on s'appelle Dieu? Alors, vous savez, à l'époque, on offrait des sacrifices parfaits, c'est-à-dire que l'animal qu'on offrait ne devait pas avoir une tâche, ne devait pas avoir de défaut quelconque, et on croyait, en faisant ça, satisfaire vraiment au Dieu d'Israël. On croyait qu'il regardait et qu'il observait s'il y avait une tâche. Enfin, c'était un sacrifice absolument parfait. Alors, ce Dieu idole, en fait, plus il nous ressemble, et je crois que c'est pour ça qu'on le met à notre taille, plus on croit le comprendre. C'est ça l'idée de réduire Dieu à notre image. De tout temps, avec la foule, nous avons même projeté sur Jésus ce fantasme de toute puissance. Hein. Montre-nous comment tu te sauves toi-même. Et je peux imaginer qu'on attendait certainement devant cette croix un événement important, quelque chose qui allait se passer. De cet homme qui avait été tellement lumineux pendant son trajet sur terre, il allait faire quelque chose là d'incroyable. Donc il y avait cette espèce d'attente aussi. Mais rien ne vient. Rien ne vient et il ne sera pas roi finalement. En tout cas, pas comme nous le comprenions, pas comme nous l'attendions, pas comme nous l'espérions, pas comme nous le voulions, pas pour Israël seulement. Peut-être justement est-ce là le signe que Dieu est toujours tout autre que ce que nous pouvons l'imaginer. Au chapitre suivant, dans Luc, on peut même lire l'histoire des deux disciples d'Emmaüs, et là, dans leur histoire, discerner tout ce malheur qui leur est tombé dessus à la croix, toute cette déception. Ils repartent complètement déçus, anéantis, toutes leurs illusions se sont effondrées, et peut-être aussi s'est effondrée en même temps leur foi, leur croyance, tout ça devant l'événement de la croix. Et nous aussi, nous pourrions franchement considérer ce moment comme un échec. Pendant très longtemps, moi, je ne voyais rien d'autre dans cette croix, pour ma part, que la solidarité humaine de Jésus, avec une expérience universelle des hommes, que chacun, chacune, nous aurions à traverser, la mort. Donc, il traversait cette expérience que nous allions tous traverser, et il le faisait par solidarité. Et il nous assurait de ne pas craindre ce changement, cette transformation, comme le papillon ne doit pas craindre de devenir papillon et de quitter le cocon dans lequel il a grandi et s'est formé, mais qu'il l'a contenu pendant toutes ces années. Dans la croix, je n'ai jamais vraiment réussi à voir quelque chose de positif, d'édifiant, de lumineux. Je n'y ai toujours vu que l'agonie injuste d'une vie volée à un jeune qu'on fait souffrir comme ça prématurément, qu'on fait mourir prématurément, volontairement, et qui aurait pu, et qui aurait dû peut-être vivre toute une vie et une existence longue, je souhaiterais paisible et bien remplie. J'y vois toute la cruauté et la bêtise des hommes, j'y vois l'injustice et la tristesse d'un monde qui préfère l'obscurité à la lumière, volontairement. Enfin bref, j'y vois tout sauf une bonne nouvelle. Et pourtant, on peut lire aussi que loin d'être un achèvement dans la mort et le néant, la croix marque le début d'une autre manière d'être au monde. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dit Jésus donc au second malfaiteur. Voilà d'ailleurs une parole qui a dû le chambouler. On peut imaginer, c'était assez inattendu pour ce bandit qui pendait là à côté de lui. Une parole qui sonne pour lui, j'imagine, avec pleine d'assurance, et pleine, comme une vie pleine de vie et d'espérance. Ça a dû lui parler. Dans ces paroles de Jésus, en tout cas, je ne pouvais pas imaginer qu'il disait dans ce moment-là au malfaiteur qui pendait à côté de lui, qui était en train de mourir à côté de lui, « Aujourd'hui, nous serons ensemble à jouer au badminton dans les nuages et nous mangerons des fruits fabuleux et succulents et nous jouerons de la harpe comme ça pour l'éternité, pour notre Dieu. » Non, parce que ce paradis-là n'existe pas. Il n'existe pas ni dans la Bible, ni dans la réalité. Il existe éventuellement dans notre imaginaire, entraîné, inspiré par les représentations qu'en ont fait tous les artistes de la Renaissance et puis toute la théologie de ces derniers siècles de notre Église. Mais ça ne fait pas de ces images des réalités pour autant. Le mot « paradis » qui est utilisé là, dont l'origine étymologique, c'est plutôt le jardin, fait référence à ce jardin du début de la Bible, dans la Genèse. Et si on en a fait une sorte d'obsession dans l'Église, de ce paradis, c'est très étonnant parce que, en tout cas, il n'intéresse pas beaucoup, j'allais presque dire pas du tout, les auteurs du Nouveau Testament. Pour vous dire, ce mot « paradis » est utilisé de manière unique, je crois même que c'est un apax ici, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas autre part qu'ici, dans tout le Nouveau Testament, dans tous les évangiles, il n'y a qu'ici qu'il est utilisé, et c'est par Jésus. Alors comment donc, une fois dégagé de toute imagerie chrétienne, pourrait-on comprendre et interpréter cette parole de Jésus pour notre temps ? Eh bien, mes amis, nous savons maintenant que si nos corps se désagrègent, si nos corps sont périssables, les atomes qui composent le corps, eux, vont lui survivre. Nos atomes seraient éternels. Ils vont juste exister après notre corps et participer à l'univers sous une autre forme, dont on ne devine rien aujourd'hui. Et je ne vois pas ce qu'il y aurait de triste ou de scandaleux d'entendre dans les paroles de Jésus « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », d'entendre « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le jardin », ce que disent vraiment ces mots. « Avec moi, tu deviendras partie de cette même nature que nous quittons aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans ce processus, je suis avec toi dans ce changement et dans cet éternel maintenant. » Quoi de scandaleux ? Ne pourrait-on pas l'entendre ainsi, dans son sens de jardin, de terre, hein, plutôt que de continuer à se bercer de fantasmes de quelques paradis célestes qui nous attendraient après la mort ? Alors bien sûr, peut-être que je casse des images là, j'en suis désolé, vous n'avez pas à croire tout ce que je raconte, hein, je vous rassure, ce n'est pas ce que dit Jésus ici, et vous pouvez bien sûr garder vos propres images et vos propres espérances pour après. Mais en tout cas, je pose juste la question, voilà. Parce qu'il y a vraiment scandale à dire ça. D'autant que la première rencontre du ressuscité, dans l'histoire de Jésus, se passe dans un jardin. C'est étonnant, on le prend même pour le jardinier. C'est Marie-Madeleine qui le découvre, elle le prend pour le jardinier. Et elle ne le reconnaît même pas d'ailleurs. Comme quoi, les atomes peuvent changer de forme, je ne sais pas. C'est à creuser. Enfin voilà, ça pourrait en tout cas être une interprétation toute simple et un peu moderne de ce passage, une confirmation de cette parole de Dieu à Adam au début de la Bible, qui, lorsqu'il est chassé du jardin, il entend ça, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors ce que Jésus veut faire comprendre ici, je pense, c'est que Dieu nous accompagne au travers de tous nos processus de transformation, quels qu'ils soient. Il crée du nouveau avec nos vies, avec nos esprits. Il le fait chaque jour à partir du moment où on le laisse faire. Il crée du nouveau même avec nos atomes, et ça, il le fait éternellement, puisque nos atomes sont éternels. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus de transformation peut donc commencer, évidemment, dès aujourd'hui, sans avoir à attendre quelques morts. Mais au-delà de cette interprétation un peu fantaisiste, il doit encore y avoir une image qu'on peut retenir avec nous de ce Christ qui pend en croix avant de ressusciter dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Le fait que Jésus, dans tout le temps de la passion, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il laisse faire. Il n'y a aucun moment où il se défend vraiment. Il ne se défend pas, il n'argumente pas, il ne se justifie pas, alors qu'on imaginerait volontiers qu'en deux ou trois paroles, il aurait pu se sortir d'affaire. Il ne fait rien, il ne se défend à aucun moment, comme s'il devait passer par cet événement de la croix pour enseigner quelque chose de fondamental. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être pour nous une sorte d'avertissement, une sorte de chemin à suivre ? Parce que, mes amis, il nous faut mourir. Il nous faut mourir à nous-mêmes, si nous voulons avancer, c'est-à-dire mourir à cette nature qui, en nous, nous dirige et que nous ne maîtrisons pas, que nous ne maîtrisons pas toujours. D'ailleurs, l'idée de mort à soi-même se retrouve dans tout le Nouveau Testament, là non plus ce n'est pas moi qui l'invente, on pourrait même dire qu'elle exprime la véritable essence de la vie chrétienne. La mort à soi-même est liée à la nouvelle naissance. Mettre à mort notre ancienne nature pour que notre nouvelle nature puisse émerger, puisse prendre toute la place, puisse avoir toute la place en nous et devenir maître un peu de nous-mêmes. Mais par le miracle de la résurrection, la mort à soi-même, c'est à la fois un événement unique et momentané et à la fois le processus de toute une vie. Paul a d'ailleurs écrit dans ses épîtres qu'il devait mourir à lui-même chaque jour. Eh bien, chacun, chacune, nous sommes appelés à la même vie. Ça peut nous sembler difficile, mais la vérité, c'est que si nous ne pouvons pas vivre, c'est impossible de vivre des vies égoïstes, c'est là où l'ego est au contrôle, et nous attendre à faire une différence dans le monde. C'est impossible. L'ego doit être crucifié. La vie dirigée par l'ego, l'égoïsme, ça ne s'apprend pas. C'est en nous de manière innée. Mais lorsque nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, à cet ego qui veut toute la place, qui dirige nos émotions et nous empêche vraiment de nous connaître nous-mêmes, alors déjà notre esprit commence à se renouveler. Et si nous permettons à cette partie renouvelée de notre être de diriger nos décisions, alors nous pourrons commencer à vraiment surmonter notre égoïsme. Alors il ne disparaîtra peut-être pas comme ça, d'un coup, comme par miracle, mais comme le promet l'Écriture, celui qui est plus grand et qui vit en nous peut nous aider à le vaincre chaque jour.